Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 29 août 2024. Le Nigeria et le Niger reprennent leur coopération sécuritaire après un an d'interruption. Un tribunal sénégalais confirme la condamnation à perpétuité d'un journaliste pour un massacre commis en 2018 en Casamance. L'ancien premier ministre et opposant guinéen Sellou Daline Diallo accuse la junte, dirigée par Mamadou Doumbouya, de manœuvrer pour ne pas restituer le pouvoir aux civils.
Moi, quand est-ce que je rentre en Guinée? Je rentrerai. C'est le parti, l'un des partis les mieux organisés en Afrique au sud du Sahara.
Sellou Daline Diallo nous en dira plus dans la partie magazine. En Tunisie, la justice autorise deux opposants à se présenter à la présidentielle. Israël dit avoir tué 5 combattants palestiniens dans une mosquée au deuxième jour d'une vaste opération militaire en Cisjordanie. Ne manquez pas notre page Or, ainsi que la Minute Co. Pour l'instant, le journal. Le Nigeria et le Niger vont reprendre leur coopération militaire pour lutter contre l'insécurité dans la région après un peu plus d'un an d'interruption à la suite de la prise de pouvoir par les militaires à Niamey. Les précisions de John Lindon.
Le chef d'état-major de l'armée nigériane, le général Christopher Moussa, a rencontré son homologue nigérien, le général Moussa Salahou Barmou, à Niamey mercredi, indique un communiqué du directeur de l'information du ministère nigérian de la Défense. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à reprendre et renforcer leur collaboration afin d'assurer la stabilité et la sécurité régionale, explique le communiqué. Le Nigeria s'est engagé à ne pas déstabiliser le Niger ou aucun de ses voisins, tandis que le Niger a confirmé être prêt à reprendre une participation active dans la coopération militaire que constitue la force multinationale mixte. Les deux responsables militaires ont reconnu l'impact significatif de la prolifération des armes légères ainsi que leur accessibilité croissante qui augmente l'insécurité et les conflits dans la région. Moussa Salahou Barmou a accepté de se rendre prochainement au Nigeria afin de finaliser les modalités de cette coopération.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a appelé aujourd'hui l'Europe à contribuer davantage à la lutte contre l'instabilité au Sahel lors d'une rencontre avec le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a exprimé la volonté d'engagement de son pays dans la région. Le Sénégal était la troisième et dernière étape d'une tournée de 3 jours de M. Sanchez en Afrique de l'Ouest, essentiellement destinée à contrer la hausse spectaculaire de l'immigration clandestine dans son pays. Une cour d'appel au Sénégal confirme la condamnation à la prison à perpétuité du journaliste René Capin-Bassène. Il est présenté comme le cerveau du massacre de 14 hommes près de la ville de Ziguinchor en janvier 2018. Alexandrine Ollignon.
René Capin-Bassène va rester en prison après la confirmation de sa peine par la cour d'appel de Ziguinchor en Casamance, selon son avocat maître Cyril Clédorly. Un membre du mouvement des forces démocratiques de Casamance, Omar Ampoy Baudian, condamné à la prison à vie en première instance, a été acquitté et va sortir de prison. Les deux hommes, en prison depuis janvier 2018, étaient poursuivis notamment pour assassinat et insurrection armée. Le 6 janvier 2018, 14 hommes partis chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte, près de la ville de Ziguinchor, avaient été rassemblés puis tués froidement par des individus armés. En juin 2022, 16 personnes avaient répondu de vol en réunion avec usage d'armes, assassinat, prise d'otages, séquestration, insurrection armée et association de malfaiteurs en lien avec ce massacre. 11 prévenus avaient été acquittés et 2 condamnés à 6 mois de prison avec sursis, en plus des 3 autres qui avaient été condamnés à la prison à vie.
En Tunisie, une quarantaine de migrants et demandeurs d'asile provenant de pays d'Afrique subsaharienne, dont des femmes enceintes et des enfants, se trouvent en grande détresse, abandonnés près de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, ont indiqué ce jeudi plusieurs ONG. Ce groupe de 42 personnes, dont des réfugiés et demandeurs d'asile, dit avoir été expulsé de Sfax, grande métropole au centre de la Tunisie, amenée jusqu'à la frontière algérienne, près d'Oum al-Araïs, dans la région semi-désertive de Gafsa, a expliqué l'ONG tunisienne FTDS. Toujours en Tunisie, le tribunal administratif a annoncé la réadmission dans la course à la présidentielle du 6 octobre de Monder Zenaidi, cet ancien ministre du régime Ben Ali, est considéré comme un rival sérieux pour le président Kais Saied. Yacouba Ouedraogo.
Le tribunal a décidé d'annuler la décision initiale de l'autorité électorale après le recours en appel déposé par Monder Zenaidi. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole Faisal Bouguera. Cette décision doit encore être confirmée par l'autorité électorale qui prévoit de tenir compte des jugements rendus et de communiquer la liste définitive des candidatures la semaine prochaine, selon son chef Farouk Bouasker. Le porte-parole du tribunal a en revanche annoncé le rejet du recours en appel de la dirigeante du parti Destourien Libre, Abir Moussi, une opposante au président Kais Saied. Mardi, le tribunal administratif avait annoncé la remise en selle d'un autre candidat, disqualifié dans un premier temps, Abdel Latif Meki, ex-dirigeant du mouvement islamo-conservateur ENADA, en acceptant son recours en appel. Le 10 août, l'autorité électorale avait annoncé n'avoir retenu que trois candidatures, dont celle du président Kais Saied. Les deux autres candidats en lice étaient Zouhair Magzawi, un ex-député, et un industriel Ayashi Zamel. L'élection présidentielle est prévue pour le 6 octobre.
Soudan, l'ONG Human Rights Watch a accusé aujourd'hui les militaires et paramilitaires de commettre des crimes de guerre. Après avoir analysé des images publiées sur les réseaux sociaux, Human Rights Watch affirme qu'au moins 40 personnes ont été exécutées sommairement et 18 détenus ont subi des actes de torture. En Ouganda, 24 crânes humains ont été retrouvés chez un homme se présentant comme un guérisseur traditionnel dans la banlieue de Kampala, a annoncé ce jeudi la police. Le suspect a arrêté lundi en cours des poursuites pour infraction à la loi de prévention et d'interdiction des sacrifices humains.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a indiqué avoir tué ce jeudi 5 combattants palestiniens. C'était au deuxième jour d'une vaste opération dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les précisions avec Mohamed Moufa.
Les 5 palestiniens tués dans le camp Nour Shams de Tulkarem étaient retranchés dans une mosquée, selon l'armée israélienne. Le djihad islamique, allié du Hamas, a confirmé la mort du commandant du camp Abu Shuja. Près de la moitié de la ville de Tulkarem n'a pas d'eau et dans le camp de Nour Shams, il n'y en a plus du tout, a indiqué Hakim Abu Safiyeh, employé municipal à Tulkarem. Selon le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, l'armée entend démanteler les infrastructures terroristes irano-islamistes en Cisjordanie. Cette opération porte à au moins 14 le nombre de morts depuis mercredi. Elle a suscité la profonde inquiétude de l'ONU. Je condamne fermement la mort d'enfants et j'appelle à la fin immédiate de ces opérations, a déclaré sur le réseau social X Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Les autorités israéliennes ont accepté une série de pauses humanitaires de 3 journées chacune dans le centre, le sud et le nord de Gaza pour permettre de lancer dimanche la campagne de vaccination des enfants contre la polio, a annoncé aujourd'hui un responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Joe Biden a hâte d'avoir des entretiens avec Xi Jinping dans les prochaines semaines, a déclaré ce jeudi l'émissaire du président américain Jake Sullivan au dirigeant chinois qui lui a assuré que l'engagement de Pékin à maintenir de bonnes relations avec Washington n'avait pas changé. Jake Sullivan est le premier conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche à s'être rendu en Chine depuis 2016. L'Ukraine a dit aujourd'hui avoir abattu 2 missiles et 60 drones tirés par la Russie sur 9 régions ukrainiennes la nuit dernière dans un contexte d'attaque accrue de Moscou contre des infrastructures énergétiques. 74 drones et 5 missiles ont été lancés par les forces russes selon l'armée de l'air ukrainienne qui dit avoir perdu la trace de 14 drones. Il s'agissait de la troisième attaque en 4 jours visant Kiev, la capitale de l'Ukraine. Liberté retrouvée pour Pavel Durov après 4 jours de détention en France, mais le patron de Telegram qui possède des passeports russes, français et émiratis est inculpé pour de nombreuses infractions liées à son application de messagerie interdit de quitter le pays. Si le milliardaire de 39 ans a été libéré, il est astreint à un contrôle judiciaire lourd, prévoyant un cautionnement de 5 millions d'euros, un pointage au commissariat 2 fois par semaine et l'interdiction de quitter le territoire français. À Moscou, le porte-parole de la présidence russe a averti que ses poursuites contre les citoyens russes ne devaient pas se transformer en persécution politique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
Le gouvernement malien a octroyé un permis de recherche d'or à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 28 août, l'attribution de la licence permettra à cette compagnie nationale de mener des travaux de recherche en vue de découvrir un gisement économique exploitable. En 2022, l'État malien a créé la SOREM en vue de s'impliquer directement dans l'exploitation de ces ressources minérales. Les prêts accordés par la Chine aux pays africains en 2023 ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019 pour s'établir à 4,61 milliards de dollars, selon un rapport publié mercredi par le Global Development Policy Center, un think tank rattaché à l'Université de Boston ici aux États-Unis. Ce rapport, selon l'agence Ecofin, souligne que l'octroi de plus de 50% des prêts chinois à des banques multilatérales et nationales africaines se situe dans le cadre d'une stratégie d'atténuation des risques qui vise à limiter l'exposition de Pékin aux problèmes d'endettement des pays africains. La croissance du PIB des États-Unis au deuxième trimestre a été révisée à la hausse à 3% en rythme annualisé contre 2,8% initialement annoncé après une croissance de 1,4% au premier trimestre. C'est ce qu'indique la deuxième estimation du département du commerce publiée jeudi.
Maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rougier, bonsoir à tous.
Tom Saint-Fiette, nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Mali.
Oui, l'annonce a été faite par le vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité. Sur place à Bamako, les précisions de notre correspondant Siaka Traoré.
Détenteur d'une licence UEFA, Tom Saint-Fiette a entraîné par le passé le Togo, Malte, la Gambie et les Philippines. Il remplace à ce poste Eric Sekou Chiel, limogé par la Fédération malienne de football le 13 juin dernier. Le dossier de Tom Saint-Fiette a été retenu parmi 31 dossiers reçus par la Fédération. Il est recruté au moment où le Mali s'apprête à recevoir le Mozambique au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 le 6 septembre prochain à Bamako. Le nouveau sélectionneur du Mali a beaucoup de missions. Il s'agira pour lui de faire qualifier le Mali à la phase finale de la CAN Maroc 2025 et atteindre au moins les demi-finales. Faire qualifier le Mali à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 et atteindre au minimum les huitièmes de finale. À côté de ces missions, il y a un gros défi que Tom Saint-Fiette doit relever. Il s'agira de faire régner la cohésion au sein de l'équipe A du Mali qui traverse une crise depuis le départ de Eric Sekou Chiel. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Début ce jeudi des épreuves des Jeux paralympiques dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier.
Les quelques 4400 sportifs originaires de 182 délégations s'affrontent pour des médailles en jeu dans plusieurs sports aujourd'hui, dont le paracyclisme et la paranatation. Justement, la paranageuse ougandaise Husna Kukundakwe rêve de médailles née sans main droite. Elle s'est préparée comme elle peut pour ces Jeux, malgré des conditions difficiles d'entraînement à Kampala. Suivez. Husna Kukundakwe se prépare à une nouvelle journée d'entraînement. Le parcours qui l'a mené à son statut actuel de médaillé d'or a commencé à l'âge de 5 ans, alors qu'elle nageait dans les eaux de Kampala.
I was born with my disability.
Je suis née avec mon handicap. Je n'ai pas de bras inférieurs droits et trois doigts complets. Bien sûr, je n'ai pas réalisé que j'étais différente avant l'âge de 5 ans, car lorsque j'étais à la maison, mes frères et sœurs, mes cousins et toute ma famille me traitaient comme si je n'étais pas différente d'eux.
La jeune fille de 17 ans explique que ce sport lui a permis de développer sa force physique et l'estime de soi.
La natation est un sport où il faut se déshabiller complètement et s'exposer au monde, alors j'ai fini par m'habituer à ce que les gens me montrent du doigt.
Kukundakwe dit qu'elle est confrontée à un défi supplémentaire, le manque d'installations d'entraînement disponibles comme dans d'autres pays.
Ici, nous nous entraînons dans des piscines de 25 mètres pour ensuite participer à une compétition dans une autre de 50 mètres.
En 2022, Kukundakwe a permis à l'Ouganda de remporter ses premières médailles internationales en paranatation et a représenté son pays en tant qu'unique paranageuse aux Jeux du Commonwealth de Birmingham. Des exploits qu'elle rêve de pousser le plus loin possible à Paris.
Page de sport VO Afrique signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'ancien premier ministre et opposant guinéen Sélou Dalène Diallo est toujours en exil plus de deux ans après avoir quitté son pays. Se disant ciblé par la junte militaire du général Mamadi Doumbouya, il promet de rentrer quand les conditions le lui permettront, tout en accusant la junte de manœuvrer pour ne pas restituer le pouvoir aux civils. Il a accordé une interview à Mouamadou Mfa lors de son récent passage ici à Washington DC.
Oui, un repli peut-être stratégique en attendant de pouvoir entrer dans mon pays en raison d'un certain nombre de contraintes que vous connaissez sans doute. J'ai préféré rester à l'extérieur pour pouvoir continuer le combat. Ceux qui sont rentrés pour essayer de le mener à l'intérieur, ils ont des soucis, ils sont en prison et certains sont peut-être disparus.
Alors, parmi les contraintes que vous évoquez, il y a une affaire qui pèse contre vous. Il se dit que lors de la privatisation de la compagnie nationale Air Guinée, vous étiez ministre des Transports à l'époque, vous êtes soupçonné d'avoir vendu à bas prix la compagnie aérienne et de vous être enrichi par rapport à cette vente. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Est-ce que vous êtes prêt à aller affronter la justice de votre pays?
Oui, ouais, si je suis derrière, ce n'est pas parce que j'ai peur de la justice. Moi, j'étais plutôt heureux. Je saluais que ce dossier soit envoyé à la justice, même s'il est frappé déjà par la prescription, parce que c'est des opérations de privatisation qui ont été menées sous la pression de la Banque mondiale et du Fonds en 2002. Et donc, il y a plus de 20 ans que cette opération a eu lieu, mais je n'ai joué aucun rôle. C'est un dossier qui est passé par le Conseil des ministres, qui l'a approuvé, parce que c'était une conditionnalité d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE à l'époque. Et le ministre des Finances est seul compétent pour justement la privatisation des entreprises publiques. C'est purement politique à raison de mon opposition ou de ce qu'on a considéré mon empressement à aller aux élections et mes critiques vis-à-vis des dérives de la transition qui m'ont valu cette convocation à la CRIF.
Alors, il y a donc cette transition qui dure selon vous, mais qui forcément arrivera bientôt à terme. On se demande, quand est-ce que vous rentrez et est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle?
Oui, alors, vous dites bientôt, moi je ne sais pas, je n'ai pas de visibilité. Parce que je sais que ce n'est pas en 2020, la junte a dit que ce n'est pas en 2024, ce n'est pas en 2025. Je sais qu'elle veut confisquer, même en organisant si nécessaire, si la pression est forte, une mascarade électorale pour se déclarer, faire déclarer Mamadi Dinka. Mais ceci dit, le peuple est là. Le peuple veillera au respect de ses droits, je suis convaincu de cela. Et donc, moi, quand est-ce que je rentre en Guinée? Je rentrerai. J'ai le parti, l'un des partis les mieux organisés en Afrique au Sud-Sahara. Je vous dis, si je savais, je vous aurais invité nécessairement dimanche passé à New York. J'ai fait un meeting, a connu la participation de près de 5000 personnes. Et non, la salle n'a pu prendre que 1000, mais il fallait voir tout l'entourage sur la salle. Il y avait du monde. Et les gens ont confiance à mon parti et à ma personne. Et nous allons nous battre pour qu'il y ait des élections libres et transparentes et que le peuple choisisse ses dirigeants. Quel que soit le prix, elle ne se battra. De l'extérieur, actuellement, je suis en train de me battre.
L'ancien premier ministre et opposant guinéen, c'est Sélou Dalène Diallo.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le processus d'enrôlement des électeurs s'achève ce 31 août 2024 au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Henri Etoundi Esomba, a appelé ses compatriotes qui hésitent encore à aller s'enrôler pour participer à cet exercice démocratique. Depuis Washington, il a lancé cet appel au micro d'Antoine Roger Bolamba.
Oui, je suis content que vous me donniez cette opportunité pour, premièrement, confirmer que nous avons ouvert au sein de la mission un bureau pour procéder à l'inscription sur les listes électorales de tous ceux qui souhaitent participer à la prochaine consultation. Je pense que l'élection se profile pour 2025. Le calendrier électoral, lui, il est ouvert au Cameroun depuis janvier. Il se procure, comme vous l'avez dit, au 31 du mois en cours. nous avons, le gouvernement a pensé inclure la diaspora pour qu'elle soit partie prenante à cette consultation. Et c'est à ce titre que ces bureaux sont ouverts. Et nous avons, nous continuons de sensibiliser les compatriotes qui veulent se joindre aux autres Camerounais pour participer à cette consultation, de venir se faire inscrire. Mais jusqu'à présent, nous ne sentons pas une adéquation entre l'impression qu'on a eue à un moment donné, qu'il y avait cet engouement et les inscriptions. Et donc, vous nous donnez là l'occasion de véritablement lancer un appel à tous ceux qui hésiteraient encore de venir le faire, parce que c'est comme ça qu'on participe à la vie et à la construction de la nation.
Henri Etundi Esomba, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Mali, les ânes jouent un rôle crucial dans le ramassage des ordures dans la capitale, mais les experts affirment que Bamako a besoin d'une meilleure infrastructure pour faire face à l'amoncellement des déchets qui envahissent la ville. Alexandrine Ologno.
Yacouba Diallo utilise les ânes Keita et Kanté pour tirer sa charrette dans Bamako et ramasser les ordures dans les rues. La ville croule sous les déchets et les animaux sont en première ligne dans la bataille pour les gérer. Il constitue une alternative plus abordable aux véhicules motorisés. Yacouba Diallo est l'un des nombreux conducteurs de charrettes à ânes qui sont payés directement par les ménages et peuvent gagner jusqu'à 100 000 francs CFA par mois, soit environ 165 $.
Je voudrais faire ce travail avec un camion, mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un, alors j'utilise les ânes et la charrette. Je demande au responsable des déchets d'enlever les ordures de la décharge pour que je puisse faire mon travail correctement. La décharge est devenue une montagne d'ordures.
Voici la montagne d'ordures dont parle Yacouba, la décharge de Badalabougou. Les collecteurs d'ordures et leurs ânes emmènent leur chargement ici et dans d'autres décharges aussi encombrées. Bien que le réseau de charrettes à ânes de la ville échappe totalement au contrôle de l'État et puisse sembler désordonné, il existe des systèmes d'organisation qui ont évolué pour gérer les travailleurs. Mamadou Sivibé est l'un des responsables de la décharge de Badalabougou. Il note dans un petit carnet tous les collecteurs qui passent par le site. Selon lui, les charrettes tirées par des ânes sont la seule option possible sur ce terrain.
On y est depuis une section des rues.
Nous gérons le site ici, nous gérons l'argent à la fin de chaque mois, c'est notre travail. Comme vous pouvez le voir, les charrettes à ânes viennent ici et nous notons leur nom. L'avantage d'utiliser les ânes pour cela ne peut être surestimé. Nous travaillons avec des charrettes à ânes, une voiture ne peut même pas accéder à cet endroit.
Comme beaucoup de capitales africaines, Bamako a connu une croissance si rapide que les infrastructures n'ont pas pu suivre le rythme de l'exode rural. Les services publics de gestion des déchets sont totalement absents. Le Mali avait conclu un contrat avec une société marocaine, Ozone, qui gérait une partie des déchets de la ville. Mais les autorités maliennes n'étaient pas disposées à payer les frais impliqués, selon l'expert en gestion des déchets et ancien employé de la ville, Bamadou Sidibé. Depuis le départ d'Ozone, le Mali n'a plus aucune gestion publique des déchets et les charrettes à ânes sont le seul moyen pour les ménages et les entreprises de se débarrasser de leurs ordures.
L'ensemble des institutions qui doivent intervenir et qui doivent traiter les questions de gestion des déchets ne jouent pas pleinement leur rôle. Je prends au niveau de l'État, l'État doit réaliser des infrastructures. Parmi ces infrastructures, il y a la décharge, la construction des décharges qui doivent recevoir l'ensemble des déchets de la ville de Bamako. Bon, depuis l'indépendance à la date d'aujourd'hui, Bamako ne dispose pas de décharges opérationnelles qui répondent techniquement aux normes.
Dans cette capitale tentaculaire en pleine expansion, un élément de la silhouette clairsemée de la ville se détache du reste une montagne géante d'ordures qui s'est développée de manière incontrôlée au cours des derniers mois.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Présidentielle américaine, l'État de Géorgie est l'un des rares à pouvoir décider de l'issue de la course à la présidence des États-Unis qui s'annonce serrée. Scott Stern, correspondant de la VOA, explique ce que les campagnes font en Géorgie et comment elles espèrent remporter cet État clé. Le récit est de Rosine Monizero.
Kamala Harris a choisi un voyage en bus à travers la Géorgie pour sa première campagne après la convention démocrate, en commençant par une répétition de la fanfare du lycée où son colitier Tim Walz a parlé du travail joyeux de leur campagne. Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence.
Je suis reconnaissant de faire partie d'une équipe qui a un très bon entraîneur et votre prochaine présidente des États-Unis, Kamala Harris.
Et Mme Harris a fait l'éloge du leadership des jeunes géorgiens.
Votre génération, tout ce que vous représentez, tout ce que vous avez en jeu, c'est ce qui va propulser notre pays dans la prochaine ère de ce que vous pouvez faire et de ce que nous pouvons être.
Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a été en tête des sondages en Géorgie pendant la majeure partie de ce cycle électoral. Mais avec le retrait de Joe Biden de la course, la plupart des sondages montrent maintenant que Trump et Harris sont à égalité. Le colitier de Trump, J.D. Vance, était en Géorgie la semaine dernière.
Nous allons le faire ensemble, mais seulement si vous nous faites franchir la ligne d'arrivée en Géorgie. C'est l'un des États les plus importants de l'Union.
Vance et Trump font campagne principalement sur ce qu'ils disent être des échecs en matière de politique économique et d'immigration, dont M. Trump a dit aux électeurs de Géorgie qu'il devait être imputé à Mme Harris. Donald Trump, candidat républicain à la présidence.
Avec votre vote, l'inflation va s'arrêter. Les étrangers en situation irrégulière seront refoulés. Ils n'entreront pas et nous devons les arrêter. Vous avez vu ce qu'elle a dit maintenant? Oh, nous avions une très bonne frontière. Oh, super! Ils avaient la pire frontière de l'histoire du monde.
L'obtention par Trump de vote républicain en Géorgie est compliquée par sa dénonciation répétée du populaire gouverneur républicain de l'État, Brian Kemp, qui a été élu il y a 2 ans malgré un défi primaire soutenu par Trump. Au début du mois, M. Trump a blâmé à plusieurs reprises M. Kemp et Brad Raffensperger, secrétaire d'État de la Géorgie, pour sa défaite en 2020. Écoutons encore Donald Trump, candidat républicain à la présidence.
Raffensperger et Brian Kemp, votre gouverneur, que j'ai fait élire d'ailleurs et qui, sans moi, ne serait pas votre gouverneur. Je pense que tout le monde le sait. C'est une personne très déloyale. Oui, en effet, très déloyale.
Alors que les sondages se resserrent en Géorgie, Trump a utilisé son site de médias sociaux la semaine dernière pour remercier Kemp pour toute son aide et son soutien en Géorgie. M. Kemp doit co-organiser une collecte de fonds pour M. Trump à Atlanta jeudi. L'année dernière, un grand jury de Géorgie a inculpé M. Trump et certains de ses alliés pour avoir tenté d'interférer illégalement avec les résultats des élections de 2020 dans cet État. Cette semaine, les avocats de Donald Trump ont de nouveau demandé le rejet de ces accusations dans une affaire qui ne sera pas jugée avant le jour de l'élection. La commission électorale de l'État de Géorgie a approuvé lundi de nouvelles règles qui, selon les critiques, pourraient perturber la finalisation des résultats des élections de novembre dans l'État. Deux membres du Conseil ont voté contre le changement. Les 3 membres du Conseil qui l'ont adopté ont tous été nommément salués par Trump ce mois-ci comme, je cite, « des pitbulls qui se battent pour l'honnêteté, la transparence et la victoire ».
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.